Anne Frank a tenu son journal du 12 juin 1942 au 1er août 1944. Jusqu'au printemps de 1944, elle écrivit ses lettres pour elle seule. Jusqu'au moment où elle entendit à la radio de Londres le ministre de l'Éducation du gouvernement néerlandais en exil dire qu'après la guerre, il faudrait rassembler et publier tout ce qui avait trait aux souffrances du peuple néerlandais pendant l'occupation allemande. Il citait à titre d'exemple, entre autres, les journaux intimes. Frappée par ce discours, Anne Frank décida de publier un livre après la guerre, son journal devant servir de base. Elle commença à recopier et réécrire celui-ci, corrigeant et supprimant les passages qu'elle considérait comme peu intéressants ou en ajoutant d'autres, en puisant dans sa mémoire. Parallèlement, elle continuait à tenir son journal originel, celui qui, dans l'édition critique, est appelé « version A », par opposition à la version B, la deuxième, réécrite. Sa dernière lettre date du 1er août 1944. Le 4 août, les 8 clandestins étaient arrêtés et emmenés par la police allemande. Le jour même de leur arrestation, Mibjis et Beb Voskel mirent à l'abri les écrits du journal d'Anne Frank. Mibjis les cacha dans son bureau et les remit, sans les avoir lus, à Otto Frank, le père d'Anne, lorsqu'on eut la certitude qu'Anne n'était plus de ce monde. Après mûre réflexion, Otto Frank décida d'exaucer le vœu de sa fille en faisant éditer les écrits qu'elle avait laissés. À cette fin, il composa à partir des deux versions d'Anne, l'original, version A, et la retouchée, version B, une troisième version, version C, abrégée. Le texte devait en effet paraître dans une collection où la longueur des volumes était prédéterminée par l'éditeur néerlandais. Lorsque le livre parut aux Pays-Bas en 1947, il n'était pas encore d'usage d'évoquer sans contrainte la sexualité, en particulier dans des ouvrages destinés à la jeunesse. Une autre raison majeure avait présidé à la suppression de certains passages, le désir d'Otto Frank de préserver la mémoire de sa femme et de ses autres compagnons d'infortune de l'annexe. Anne Frank avait écrit son journal entre 13 et 15 ans et manifestait ouvertement ses antipathies comme ses sympathies. Otto Frank mourut en 1980. Il léguait par testament l'original des journaux de sa fille au Rijksinstituut Vooroorlog Documentatie, Institut national néerlandais pour la documentation de guerre à Amsterdam. L'authenticité du journal n'ayant cessé d'être mise en doute depuis les années 50, les chercheurs de l'Institut firent expertiser l'intégralité des écrits du journal. Une fois l'authenticité établie, sans aucun doute possible, ils publièrent l'ensemble des documents composant le journal d'Anne Frank, assortis des résultats de leurs recherches, comprenant entre autres une enquête sur le milieu familial d'Anne, sur les circonstances de son arrestation et de sa déportation, une analyse des matériaux ayant servi de support au journal, une expertise graphologique et un historique de la diffusion du journal. Le Anne Frank Fonds de Bâle, en sa qualité de légataire universel d'Otto Frank, détient également l'ensemble des droits d'auteur de sa fille. Il décida d'insérer dans une nouvelle version des passages tirés des textes désormais disponibles. Cette nouvelle version n'enlève rien de sa valeur au travail éditorial accompli par Otto Frank, qui a apporté au journal sa diffusion et sa signification politique. L'écrivain et traductrice allemande Myriam Pressler a été chargée de la nouvelle rédaction. Elle a repris intégralement la version d'Otto Frank, qu'elle a complétée par divers passages des versions A et B du journal. La version présentée par Myriam Pressler, avec l'autorisation du Anne Frank Fonds, est ainsi plus longue que la précédente, d'au moins 25%. Elle devrait permettre au lecteur d'acquérir une connaissance plus approfondie de l'univers d'Anne Frank. À la fin des années 90, 5 pages inconnues du manuscrit refirent surface. Avec l'autorisation du fonds Anne Frank de Bâle, un long passage daté du 8 février 1944 a été ajouté à la fin de la lettre préexistante qui portait cette date. Un bref fragment du 20 juin 1942 n'a pas été repris ici dans la mesure où une version plus détaillée du même passage figure déjà dans le journal. Enfin, la lettre du 7 novembre 1942 est transféré au 30 octobre 1943, sa vraie date, ainsi qu'il a été établi récemment. Pour de plus amples informations, on voudra bien se reporter à la 5e édition de De Dagboeken van Anne Frank, Institut néerlandais de documentation sur la guerre. NIOD, Amsterdam, édition Bert Bakker, 2001. Lorsqu'elle écrivit sa deuxième version, version B, Anne Frank avait déjà choisi les pseudonymes qu'elle voulait donner aux différents personnages du livre, dans l'optique d'une éventuelle publication. Elle s'en était même attribué un, Anne Hollis, qu'elle changea ensuite pour Anne Robin. Otto Frank ne conserva pas le pseudonyme d'Anne ni celui de la famille Frank, mais respecta ce qu'elle avait donné aux autres clandestins. Leur protecteur de l'époque, désormais reconnu dans le monde entier, mérite à présent d'être désigné sous leur vrai nom. Les noms de tous les autres personnages sont conformes à ceux qui figurent dans l'édition critique. Le Reichsinstitut a choisi des initiales fictives pour toutes les personnes ayant manifesté le désir de rester anonymes. Les vrais noms des clandestins étaient Famille Van Pels, d'Osnabrück, Augusta, née le 29 septembre 1890, Hermann, née le 31 mars 1889, Peter, née le 9 novembre 1927, appelé respectivement par Anne, Petronella, Hans et Alfred van Dahn. Et dans le livre, Petronella, Hermann et Peter van Dahn. Fritz Pfeffer, né en 1889 à Gießen, appelé par Anne et dans le livre, Albert Dussel. Note sur la présente édition. Ce volume présente la version définitive en langue française du journal d'Anne Frank, ainsi que l'a montré l'édition critique publiée en France en 1989. Anne Frank a rédigé successivement deux versions de son journal. En d'autres termes, Anne Frank a tenu son journal pendant plus de deux ans, juin 1942, août 1944, mais en a retravaillé le texte dans les derniers mois parce que la rédaction primitive ne répondait plus à ses ambitions d'écrivain. La présente édition comporte donc, à côté de la version du journal retouchée par Anne Frank elle-même, des extraits de sa première rédaction, reprise sans aucun changement. La rédaction de cette édition a été confiée à l'écrivain et traductrice allemande Myriam Pressler à l'initiative de l'Anne Frank Fonds de Bâle. Myriam Pressler en a profité pour rétablir les passages supprimés par Otto Frank pour des raisons de décence ou de discrétion. Enfin, cette édition est présentée au public français dans la traduction de Philippe Noble et Isabelle Rosselin-Bobulesco, qui était déjà celle de l'édition critique. Note des éditeurs.
Je vais pouvoir, j'espère, te confier toutes sortes de choses, comme je n'ai encore pu le faire à personne, et j'espère que tu me seras d'un grand soutien. 28 septembre 1942, ajout. Jusqu'à maintenant, j'ai trouvé en toi un grand soutien, comme auprès de Kitty, à qui j'écris régulièrement. J'aime beaucoup mieux cette façon d'écrire dans mon journal, et maintenant j'ai vraiment du mal à attendre le moment de te retrouver pour écrire. Oh, comme je suis contente de t'avoir emporté. Dimanche 14 juin 1942. Je vais commencer au moment où je t'ai reçu, c'est-à-dire quand je t'ai vu sur la table de mes cadeaux d'anniversaire. Car j'étais là quand on t'a acheté, mais ça ne compte pas. Vendredi 12 juin. J'étais déjà réveillée à 6h et c'est bien compréhensible puisque c'était mon anniversaire. Mais à 6h, je n'avais pas le droit de me lever, alors j'ai dû contenir ma curiosité jusqu'à 7h moins le quart. Là, je n'y tenais plus, je suis allée dans la salle à manger où Mordier, le chat, m'a souhaité la bienvenue en me donnant des petits coups de tête. Un peu après 7h, je suis allée voir papa et maman et ensuite je suis venue au salon pour déballer mes cadeaux. C'est toi que j'ai vu en premier. Peut-être un de mes plus beaux cadeaux. Et puis un bouquet de roses, deux branches de pivoine et une petite plante. Papa et maman m'ont donné un chemisier bleu, un jeu de société, une bouteille de jus de raisin, qui à mon idée a un petit goût de vin. On fait le vin avec du raisin. Puis un puzzle, un petit pot de pommade, un billet de 2 florins et demi et un bon pour 2 livres. Un livre à la caméra obscura, mais Margot l'a déjà alors je l'ai changé. Un plat de petits gâteaux faits maison, pas moi bien sûr, car faire des petits gâteaux c'est mon fort en ce moment. Beaucoup de bonbons et une tarte aux fraises faite par maman. Une lettre de mamie, juste à temps, mais évidemment, c'est un hasard. Ensuite, Anneli est venue me chercher et nous sommes partis à l'école. Pendant la récréation, j'ai offert des galettes au beurre aux professeurs et aux élèves. Et puis il a fallu retourner au travail. Puis je suis rentrée à 5h, car j'étais allée au cours de gymnastique, même si je n'en ai pas le droit parce que mes bras et mes jambes se déboîtent. Et pour mon anniversaire, j'ai choisi qu'on joue tous au volley. Quand je suis arrivée à la maison, San et Lederman étaient déjà là, et j'avais ramené Ilse Wagner, Anneli Goslar et Jacqueline Van Marsen, parce qu'elles sont dans ma classe. Avant, Anneli et San étaient mes 2 meilleures amies, et quand on nous voyait ensemble, on disait toujours « Voilà Anne, Hanne et San ». Je n'ai connu Jacqueline Van Marsen qu'au lycée juif, et maintenant elle est ma meilleure amie. Ilse est la meilleure amie de Anneli. et Sane est à une autre école où elle a ses amis. Lundi 15 juin 1942. Dimanche après-midi, j'ai eu ma petite réception d'anniversaire. Rintintin a beaucoup plu à mes camarades de classe. J'ai eu deux broches, un marque-page et deux livres. En plus, tante Hélène a apporté un puzzle. Tante Stéphanie, une adorable petite broche. Et tante Lénie, un livre formidable. Daisy à la montagne. Les filles du club m'ont donné un livre superbe. Les contes et légendes des Pays-Bas. Mais elles se sont trompées et m'ont acheté le tome 2. Alors j'ai changé deux livres contre le tome 1. En prenant mon bain ce matin, je me disais que ce serait vraiment merveilleux d'avoir un chien comme Rintintin. Je l'appellerai Rintintin aussi. Et à l'école, je le laisserai toujours chez le concierge ou par beau temps dans la remise à vélo. Maintenant, je vais parler un peu de la classe et de l'école, en commençant par les élèves. Betty Blumendahl fait un peu pauvre, mais elle l'est aussi, je crois. Elle est très bonne en classe, mais c'est parce qu'elle travaille beaucoup, car elle commence déjà à peiner un peu. C'est une fille assez calme. Jacqueline Van Marsen passe pour ma meilleure amie, mais je n'ai encore jamais eu de véritable amie. Au début, je pensais que ce serait Jacques, mais elle m'a drôlement déçue. D.Q. est une fille très nerveuse qui oublie toujours quelque chose et attrape des punitions sans arrêt. Elle est de bonne composition, surtout avec G.Z. E.S. est tellement pipelette que ça n'est même plus drôle. Quand elle te demande quelque chose, il faut toujours qu'elle te tripote les cheveux ou les boutons de tes vêtements. On dit que E ne peut pas me sentir, mais cela ne me gêne pas du tout puisque je ne la trouve pas très sympathique non plus. Annie Metz est une fille marrante et sympa, sauf qu'elle parle très fort et que lorsqu'elle joue dans la rue, elle fait la bête. C'est bien dommage qu'elle ait pour amie une certaine Bepi, qui a une influence déplorable sur elle, parce qu'elle dit des choses vraiment sales et dégoûtantes. Sur J.R., il y aurait des chapitres à écrire. J. est une fille crâneuse, chuchoteuse, désagréable. Elle joue les grandes personnes, elle est sournoise et faux jeton. Elle a complètement embobiné Jacques, et c'est très dommage. J. pleure pour un rien, elle est chichiteuse et fait tout un cinéma. Mademoiselle J. veut toujours avoir raison. Elle est très riche et a une armoire pleine de robes vraiment mignonnes, mais qui font beaucoup trop d'âme. Mademoiselle se croit très belle, mais c'est tout le contraire. J. et moi, on ne peut pas se voir. Ilse Wagner est une fille marrante et sympa, mais elle est très chipoteuse et peut se plaindre pendant des heures. Ilse est même plutôt bien. Elle est aussi très bonne en classe, mais paresseuse. Anneli Goslar, ou Lise, comme on l'appelle à l'école, est une fille un peu bizarre. En général, elle est timide et chez elle très insolente. Elle va toujours tout raconter à sa mère. Mais elle dit franchement ce qu'elle pense, et ces derniers temps surtout, je l'apprécie beaucoup. Nanny van Praag-Sigar est une drôle de petite fille. En avance pour son âge, je la trouve plutôt gentille. Elle a d'assez bons résultats. Il n'y a pas grand-chose à dire de Nanny van Praag-Sigar. Effie de Jong est une fille formidable, je trouve. Elle n'a que 12 ans, mais c'est une vraie dame. Elle me traite comme un bébé. Elle est aussi très serviable, et c'est pourquoi je l'aime bien. G.Z. est la plus jolie fille de la classe. Elle a un visage adorable, mais elle n'est pas très douée et je crois qu'elle va redoubler. Mais évidemment, je ne lui dirai pas. À mon grand étonnement, G. n'a pas redoublé. Et enfin moi, dernière des 12 filles, assise à côté de G.Z. Des garçons, il y a beaucoup à dire, et en même temps pas grand-chose. Maurice Coster est un de mes nombreux admirateurs, mais il est plutôt du genre casse-pied. Sally Springer dit vraiment des choses dégoûtantes et on raconte qu'il a déjà couché avec une fille. Mais je le trouve quand même super, parce qu'il est très marrant. Emil Bonwit est l'admirateur de G.Z., mais G n'en a rien à faire. Il est plutôt barbant. Robert Cohen aussi était amoureux de moi, mais je ne peux plus le supporter. Il est faux jeton, menteur, pleurnicheur, ridicule, casse-pied et il se fait un tas d'idées. Max van de Velde est un pecno de Medemblik, mais tout à fait acceptable, dirait Margot. Herman Koopman, lui aussi est dégoûtant, tout comme Jopie de Beer. Un vrai dragueur et un coureur, celui-là. Léo Blom est copain comme cochon avec Jopie de Beer, et il est contaminé par ses saletés. Albert de Mesquita est un garçon qui vient de la 6e de l'école Montessori et a sauté une classe. Il est très intelligent. Léo Slager vient de la même école, mais il est moins doué. Roos Toppelman est un drôle de petit bonhomme d'Almelo qui est arrivé en cours d'année. Jacques Cosernout est derrière nous avec Pim et nous rions comme des folles, G et moi. Aris Kapp est encore le garçon le plus présentable de la classe. Il est plutôt gentil. Werner Joseph, idem, mais il est renfermé et donne l'impression d'être ennuyeux. Sam Salomon est un vrai petit voyou de la zone, un sale gamin. Admirateur. Happy Reim est plutôt orthodoxe, mais un sale gamin lui aussi. Maintenant, il faut que j'arrête. La prochaine fois, j'aurai encore tant de choses à écrire, donc à te raconter. À bientôt. C'est si bon de t'avoir. Samedi 20 juin 1942. C'est une sensation très étrange pour quelqu'un dans mon genre d'écrire un journal. Non seulement je n'ai jamais écrit, mais il me semble que plus tard, ni moi ni personne ne s'intéressera aux confidences d'une écolière de 13 ans. Mais à vrai dire, cela n'a pas d'importance. J'ai envie d'écrire et bien plus encore de dire vraiment ce que j'ai sur le cœur une bonne fois pour toutes, à propos d'un tas de choses. Le papier a plus de patience que les gens. Ce dicton m'est venu à l'esprit par un de ces jours de légère mélancolie, où je m'ennuyais, la tête dans les mains, en me demandant dans mon apathie s'il fallait sortir ou rester à la maison, et où, au bout du compte, je restais planté là à me morfondre. Oui, c'est vrai. Le papier a de la patience. Et comme je n'ai pas l'intention de jamais faire lire à qui que ce soit ce cahier cartonné paré du titre pompeux de « journal », à moins de rencontrer une fois dans ma vie un ami ou une amie qui devienne l'ami ou l'ami avec un grand A, personne n'y verra probablement d'inconvénient. Me voici arrivée à la constatation d'où est partie cette idée de journal. Je n'ai pas d'amis. Pour être encore plus clair, il faut donner une explication car personne ne comprendrait qu'une fille de 13 ans soit complètement seule au monde, ce qui n'est pas vrai non plus. J'ai des parents adorables et une sœur de 16 ans. J'ai tout bien compté, au moins 30 camarades et amis, comme on dit. J'ai une nuée d'admirateurs qui ne me quittent pas des yeux et qui en classe, faute de mieux, tentent de capter mon image dans un petit éclat de miroir de poche. J'ai ma famille, hein, chez moi. Non, à première vue, rien ne me manque, sauf l'ami avec un grand A. Avec mes camarades, je m'amuse et c'est tout. Je n'arrive jamais à parler d'autre chose que des petites histoires de tous les jours ou à me rapprocher d'elles. Voilà le hic. Peut-être ce manque d'intimité vient-il de moi. En tout cas, le fait est là et malheureusement, on ne peut rien y changer. De là, ce journal. Et pour renforcer encore dans mon imagination l'idée de l'ami tant attendue, je ne veux pas me contenter d'aligner les faits dans ce journal comme ferait n'importe qui d'autre, mais je veux faire de ce journal l'ami elle-même et cette amie s'appellera Kitty. Idiote. Mon histoire. On n'oublie pas ces choses-là. Comme on ne comprendra rien à ce que je raconte à Kitty, si je commence de but en blanc, il faut que je résume l'histoire de ma vie, quoi qu'il m'en coûte. Mon père, le plus chou des petits papas que j'ai jamais rencontrés, avait déjà 36 ans quand il a épousé ma mère, qui en avait alors 25. Ma sœur Margot est née en 1926 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Le 12 juin 1929, c'était mon tour. J'ai habité Francfort jusqu'à l'âge de 4 ans. Comme nous sommes juifs à 100%, mon père est venu en Hollande en 1933, où il a été nommé directeur de la société néerlandaise Opecta, spécialisée dans la préparation de confitures. Ma mère, Edith Frank Hollander, est venue le rejoindre en Hollande en septembre. Margot et moi sommes allés à Aix-la-Chapelle, où habitait notre grand-mère. Margot est venue en Hollande en décembre, et moi en février, et on m'a mise sur la table parmi les cadeaux d'anniversaire de Margot. Peu de temps après, je suis entrée à la maternelle de l'école Montessori, la sixième. J'y suis restée jusqu'à 6 ans, puis je suis allée au cours préparatoire. En CM2, je me suis retrouvée avec la directrice, Madame Cupérus. Nous nous sommes fait des adieux déchirants à la fin de l'année scolaire, et nous avons pleuré toutes les deux, parce que j'ai été admise au lycée juif où va aussi Margot. Notre vie a connu les tensions qu'on imagine, puisque les lois anti-juives de Hitler n'ont pas épargné les membres de la famille qui étaient restés en Allemagne. En 1938, après les pogroms, mes deux oncles, les frères de maman, ont pris la fuite et se sont retrouvés sains et saufs en Amérique du Nord. Ma grand-mère est venue s'installer chez nous. Elle avait alors 73 ans. À partir de mai 1940, c'en était fini du bon temps. D'abord la guerre, la capitulation, l'entrée des Allemands, et nos misères à nous les Juifs ont commencé. Les lois anti-juives se sont succédées sans interruption, et notre liberté de mouvement fut de plus en plus restreinte. Les Juifs doivent porter l'étoile jaune. Les Juifs doivent rendre leur vélo. Les Juifs n'ont pas le droit de prendre le tram. Les Juifs n'ont pas le droit de circuler en autobus, ni même dans une voiture particulière. Les Juifs ne peuvent faire leurs courses que de 3 heures à 5 heures. Les Juifs ne peuvent aller que chez un coiffeur juif. Les Juifs n'ont pas le droit de sortir dans la rue de 8 heures du soir à 6 heures du matin. Les Juifs n'ont pas le droit de fréquenter les théâtres, les cinémas et autres lieux de divertissement. Les Juifs n'ont pas le droit d'aller à la piscine ou de jouer au tennis, au hockey ou à d'autres sports. Les Juifs n'ont pas le droit de faire de l'aviron. Les Juifs ne peuvent pratiquer aucune sorte de sport en public. Les Juifs n'ont plus le droit de se tenir dans un jardin chez eux ou chez des amis après 8 heures du soir. Les Juifs n'ont pas le droit d'entrer chez des chrétiens. Les Juifs doivent fréquenter des écoles juives et ainsi de suite. Voilà comment nous vivotions et il nous était interdit de faire ceci ou de faire cela. Jacques me disait toujours, je n'ose plus rien faire, j'ai peur que ce soit interdit. Dans l'été de 1941, grand-mère est tombée gravement malade, il a fallu l'opérer et on a un peu oublié mon anniversaire. Comme d'ailleurs dans l'été de 1940, parce que la guerre venait de se terminer aux Pays-Bas. Grand-mère est morte en janvier 1942. Personne ne sait à quel point moi, je pense à elle et comme je l'aime encore. Cette année, en 1942, on a voulu rattraper le temps perdu en fêtant mon anniversaire et la petite bougie de grand-mère était allumée près de nous. Pour nous quatre, tout va bien pour le moment et j'en suis arrivée ainsi à la date d'aujourd'hui, celle de l'inauguration solennelle de mon journal, 20 juin 1942. Samedi 20 juin 1942. Chère Kitty, je commence sans plus attendre. Je suis bien tranquille en ce moment. Papa et maman sont sortis et Margot est allée jouer au ping-pong chez son amie avec des copains. Moi aussi, je joue beaucoup au ping-pong ces derniers temps, à tel point que nous avons fondé un club de 5 filles. Le club s'appelle « La Petite Ours moins 2 ». C'est un nom tiré par les cheveux, mais il faut dire qu'il repose sur une erreur. Nous voulions choisir un nom tout à fait original et comme nous étions 5, nous avons pensé aux étoiles, à la petite ours. Nous pensions que la petite ours avait 5 étoiles. Mais nous nous sommes trompés car elle en a 7, tout comme la grande ours. D'où le moins 2. Comme les 5 joueuses adorent les glaces, surtout en été, et que le ping-pong, ça donne chaud, les parties se terminent généralement par une virée chez les 2 glaciers les plus proches qui sont ouverts aux Juifs, l'Oasis ou Delphes. Nous ne prenons plus la peine de chercher porte-monnaie ou argent. À l'Oasis, il y a généralement tant de monde que, dans le lot, il se trouve toujours quelques généreux messieurs de notre connaissance ou un admirateur quelconque pour nous offrir plus de glace que nous ne pourrions consommer en une semaine. Tu seras sans doute étonné qu'à mon âge, je parle déjà d'admirateur. Hélas, ou dans certains cas, pas du tout hélas, ce mal semble impossible à éviter dans notre école. Dès qu'un garçon me demande s'il peut m'accompagner en vélo jusqu'à la maison et que la conversation s'engage, je peux être sûre que 9 fois sur 10, le jeune homme en question aura la fâcheuse habitude de prendre immédiatement feu et flamme et ne me quittera plus des yeux. Au bout d'un certain temps, ses sentiments amoureux finissent par se refroidir un peu, d'autant plus que je me moque pas mal des regards éperdus et continue à pédaler de bon cœur. S'ils vont trop loin, je fais un peu tanguer mon vélo, mon cartable tombe, le jeune homme, par galanterie, est bien obligé de descendre, et le temps qu'il me rende le cartable, j'ai déjà trouvé un autre sujet de conversation. Et je ne parle que des plus inoffensifs. Il y en a aussi dans le lot, naturellement, qui vous envoient des baisers ou essaient de s'emparer d'un bras, mais avec moi, ils se trompent d'adresse. Soit je mets pied à terre et je refuse d'accepter plus longtemps leur compagnie, soit je fais l'offensé et leur dis sans mâcher mes mots qu'ils n'ont plus qu'à rentrer chez eux. Et voilà. J'ai jeté les bases de notre amitié. À demain. Bien à toi, Anne. Dimanche 21 juin 1942. Chère Kitty, toute la 6e L2 tremble. La cause en est naturellement l'approche du conseil de classe. La moitié de la classe fait des paris sur qui va passer et qui va redoubler. Les 2 garçons qui sont derrière nous, CN et Jacques Coquernaut, nous font mourir de rire, ma voisine GZ et moi. Ils ont parié l'un avec l'autre tout leur argent pour les vacances. Toi tu passes, non, si, non, si, du matin au soir. Ni les regards suppliants de G pour demander le silence, ni mes remarques fielleuses ne parviennent à les calmer. À mon avis, un quart de la classe devrait redoubler. Il y a de tels abrutis. Mais les profs sont les gens les plus capricieux qui soient. Peut-être que cette fois-ci, exceptionnellement, ils feront un caprice dans le bon sens. Pour mes amis et moi, je ne me fais pas trop de soucis. Nous nous en sortirons. Il n'y a que les maths qui m'inquiètent un peu. Enfin, on verra bien. En attendant, on se serre les coudes. Avec mes professeurs, je m'entends assez bien. Il y en a 9 en tout. 7 hommes et 2 femmes. Monsieur Kissing, le petit vieux des mathématiques, était très en colère contre moi pendant un moment parce que je bavardais sans arrêt. Après une série d'avertissements, j'ai fini par me faire punir. Une rédaction avec pour sujet une pipelette. Une pipelette. Qu'est-ce qu'on peut bien écrire là-dessus? On verrait plus tard, après avoir noté la punition. J'ai remis mon cahier de texte dans mon cartable et j'ai essayé de me tenir tranquille. Le soir, tous mes devoirs terminés, mon regard est tombé sur le sujet de la rédaction. En suçotant le bout de mon stylo, je commençais à réfléchir au sujet. Raconter n'importe quoi en écrivant le plus gros possible, c'est à la portée de tout le monde. Mais trouver une preuve convaincante de la nécessité du bavardage, voilà le grand chic. À force de réfléchir, j'ai eu soudain une idée et j'ai rempli les 3 pages imposées, plutôt contente de moi. Comme argument, j'avais avancé que bavarder est le propre des femmes, que j'allais faire de mon mieux pour me contrôler un peu, mais que je ne pourrais jamais me défaire de cette habitude, étant donné que ma mère était aussi bavarde que moi, sinon plus, et que l'on peut difficilement changer les caractères héréditaires. Mes arguments ont beaucoup amusé M. Keesing. Mais quand j'ai repris mon heure de bavardage au cours suivant, la deuxième punition est tombée. Cette fois, le sujet était une pipelette incorrigible. J'ai remis ce second devoir et, pendant 2 cours, Keesing n'a pas eu à se plaindre. Mais au cours d'après, il a trouvé que je recommençais à dépasser les bornes. « Anne Frank, comme punition pour bavardage, vous me ferez une rédaction sur le sujet « Coin, coin, coin », dit Mademoiselle Cancan. » Toute la classe a éclaté de rire. Moi aussi. Même si mon imagination s'épuisait sur le thème du bavardage. Il fallait trouver autre chose qui sorte de l'ordinaire. Mon amie San, une poétesse de talent, me proposa de m'aider à mettre la rédaction en vers de la première à la dernière ligne. Je jubilais. En me donnant ce sujet idiot, Keesing voulait se payer ma tête. Avec mon poème, on verrait bien qui rirait le dernier. Le poème était très réussi. Il parlait d'une maman canne et d'un papa cygne et de leurs 3 petits canards que leur père tua en les mordant parce qu'ils faisaient trop de coin-coin. Heureusement, Keesing prit bien la plaisanterie et lut le poème dans notre classe en y ajoutant ses commentaires et en fit même profiter d'autres classes. Depuis, j'ai le droit de parler et je ne suis jamais punie, au contraire. Keesing me reprend toujours en plaisantant. Bien à toi, Anne. Mercredi 24 juin 1942. Cher Kitty, il fait une chaleur torride. Tout le monde étouffe et cuit, et par ces températures, je suis obligée d'aller partout à pied. C'est maintenant que je me rends compte comme on est bien dans le tram, surtout s'il est à plateforme. Mais ce plaisir nous est défendu à nous les Juifs. Nos pieds doivent nous suffire. Hier, entre midi et 2 heures, je devais aller chez le dentiste dans la Jan Leukenstraat. C'est très loin de Stadt-Timmertwinen, où se trouve notre école. Et l'après-midi, j'ai failli m'endormir pendant les cours. Heureusement, les gens vous offrent à boire sans qu'on ait à le demander. L'assistante du dentiste est vraiment gentille. Le bac est le seul moyen de transport qui nous soit encore permis. Sur le quai Joseph Israël, il y a un petit bateau dont le conducteur nous a pris tout de suite quand nous lui avons demandé de traverser. Ce n'est certainement pas la faute des Hollandais, si nous les Juifs, nous avons tant de misère. J'aimerais tant ne pas aller à l'école. Mon vélo a été volé pendant les vacances de Pâques, et papa a confié celui de maman à des amis chrétiens. Mais heureusement, les vacances approchent à grands pas, plus qu'une semaine, et les ennuis seront oubliés. Hier matin, il m'est arrivé une chose agréable. Je passais devant la remise à vélo quand quelqu'un m'a appelé. Je me suis retournée, et j'ai vu derrière moi un joli garçon que j'avais rencontré la veille chez Wilma. C'est un petit cousin de Wilma, et Wilma est une camarade qui au début avait l'air très gentille, elle est aussi, mais elle ne fait que parler de garçons à longueur de journée, et ça commence à m'agacer. Il s'est approché, l'air un peu timide, et s'est présenté. « Hello Silberberg !» J'étais un peu étonnée et me demandais ce qu'il voulait, mais je n'ai pas tardé à le savoir. Hello voulait profiter de ma présence et m'accompagner à l'école. « Puisque de toute façon tu vas du même côté, je veux bien faire le chemin avec toi, » répondis-je. Et nous sommes partis ensemble. Hello a déjà 16 ans et a toujours des tas de choses intéressantes à raconter. Ce matin, il m'attendait encore et il va sans doute continuer à le faire par la suite. Anne. Mercredi 1er juillet 1942. Cher Kitty, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé un instant pour t'écrire. Jeudi, j'ai passé tout l'après-midi chez des amis. Vendredi, nous avons eu de la visite et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Hello et moi, nous avons eu le temps de faire connaissance depuis une semaine. Il m'a beaucoup parlé de lui. Il vient de Gelsenkirchen et est venu aux Pays-Bas sans ses parents. Il vit chez ses grands-parents. Ses parents sont en Belgique. Il n'a aucun moyen de les rejoindre là-bas. Hello avait une petite amie, Ursule, je la connais. L'exemple même de la fille douce et insipide. Depuis qu'il m'a rencontrée, Hello a découvert qu'Ursule l'endormait. Il faut croire que je suis une sorte de remède contre le sommeil. On est loin de s'imaginer tout ce à quoi on peut servir. Jacques a dormi chez moi samedi soir. L'après-midi, Jacques était chez Hanely et je me suis ennuyée à mourir. Hello devait venir chez moi ce soir, mais vers 6 heures, il a appelé. J'ai pris le téléphone et il a dit « Bonjour, c'est Helmut Silberberg. Pourrais-je parler à Anne, s'il vous plaît ?»« Oui, Hello, c'est Anne. »« Bonjour, Anne. Comment vas-tu ?»« Très bien, merci. Je voulais te dire qu'à mon grand regret, je ne pourrais pas venir ce soir. Mais j'aimerais quand même bien te parler si tu es d'accord. Je suis chez toi dans 10 minutes. Oui, d'accord. À tout de suite. À tout de suite, j'arrive. Je raccroche, je me précipite pour me changer et j'arrange un peu mes cheveux. Puis tout excitée, je me penche par la fenêtre. Enfin, il est arrivé. Incroyable, mais vrai. Je n'ai pas dégringolé les escaliers, mais j'ai attendu calmement son coup de sonnette. Je suis descendue et il m'a tout de suite dit ce qui l'amenait. « Dis donc, Anne, ma grand-mère te trouve trop jeune pour que je te fréquente et m'a dit d'aller chez les Löwenbach. Mais tu le sais peut-être, je ne sors plus avec Ursule. »« Non ? Comment ça ? Vous vous êtes disputée ?»« Non, au contraire. J'ai dit à Ursule que de toute façon, nous ne nous entendions pas bien et qu'il valait mieux ne plus sortir ensemble, mais qu'elle était toujours la bienvenue chez nous et que j'espérais l'être aussi chez elle. En fait, je croyais qu'elle tournait autour d'un autre garçon et je l'ai traitée en conséquence. » Mais ce n'était pas vrai du tout, et mon oncle m'a dit de présenter mes excuses à Ursule, mais naturellement je ne voulais pas, et j'ai préféré rompre, mais j'avais bien d'autres raisons. Et maintenant ma grand-mère veut que j'aille chez Ursule, et pas chez toi, mais je ne suis pas d'accord, et je n'en ai pas l'intention. Les gens âgés ont parfois des idées rétrogrades, mais je suis incapable de m'y plier. J'ai besoin de mes grands-parents, mais en un sens, eux aussi ont besoin de moi. Le mercredi soir, je suis toujours libre, parce que mes grands-parents croient que je suis à mon cours de gravure sur bois. Mais en fait, j'avais un club du partitionniste où je n'ai pas le droit d'aller, parce que mes grands-parents sont très opposés au sionisme. Je ne suis pas un partisan fanatique, mais je suis plutôt pour, et ça m'intéresse. Mais ces derniers temps, ils cafouillent tellement que j'ai décidé de laisser tomber, et j'irai pour la dernière fois mercredi soir. Après, je serai libre le mercredi soir, le samedi après-midi, le dimanche après-midi, et ainsi de suite. Mais si tes grands-parents ne veulent pas, tu ne vas tout de même pas le faire derrière leur dos. L'amour ne se commande pas. On est arrivé devant la librairie Blankevoort. Et là, j'ai vu Peter Schiff avec deux autres garçons. C'était la première fois depuis longtemps qu'il me disait bonjour, et ça m'a fait très plaisir. Lundi soir, Hello est venu chez nous pour faire connaissance avec papa et maman. J'avais acheté des gâteaux et des bonbons. Il y avait du thé, des biscuits, de tout. Mais ni Hello ni moi n'avions envie de rester tranquillement assis sur nos chaises. Nous sommes allés nous promener. Et il ne m'a ramené chez moi qu'à 8h10. Papa était très fâché. Il a trouvé que j'exagérais de rentrer si tard. J'ai dû promettre qu'à l'avenir, je serai à la maison à 8h-10. Il m'a invité chez lui samedi prochain. Et puis Wilma m'a raconté que Hello était venue chez elle un soir et qu'elle lui avait demandé « Qui est-ce que tu préfères, Ursule ou Anne ?» Et il a répondu « Ça te regarde pas. » Mais en partant, ils n'avaient plus bavardé ensemble toute la soirée. Il a dit « Anne, bien sûr. Au revoir, et surtout ne le dis à personne. » Et hop, il a disparu. Tout indique que Hello est amoureux de moi, et pour une fois, ça me plaît bien. Margot dirait que c'est un garçon tout à fait acceptable. Je le trouve aussi, pour ne pas dire plus. Maman le couvre de fleurs, elle aussi. Un garçon bien, de sa personne, et poli et gentil avec ça. Je suis contente que Hello plaise tant à toute ma famille. Sauf qu'il n'est pas du goût de mes amis, qu'il trouve d'ailleurs très bébête, et il a bien raison. Jacques me taquine sans arrêt au sujet de Hello. Je ne suis pas du tout amoureuse, ça non. J'ai bien le droit d'avoir des amis. Personne n'y trouve à redire. Maman veut toujours savoir avec qui j'aimerais me marier plus tard. Mais je crois qu'elle ne devinera jamais que c'est Peter. Parce que je leur soutiens le contraire sans sourciller. J'aime Peter, comme je n'ai jamais aimé personne. Et j'essaie de me persuader sans cesse que si Peter est toujours avec toutes ses autres filles, c'est uniquement pour cacher ses sentiments. Il croit peut-être que Hello et moi... nous sommes amoureux, mais ce n'est pas vrai du tout, car ce n'est qu'un copain, ou comme dirait maman, mon chevalier servant. Bien à toi, Anne. Dimanche 5 juillet 1942. Cher Kitty, vendredi, la distribution des prix au théâtre juif s'est bien passée. Mon bulletin n'est pas si mauvais. J'ai une seule note en dessous de la moyenne, un 5 en algèbre, et pour le reste que des 7, 2 8 et 2 6. À la maison, ils étaient contents. Mais en matière de notes, mes parents sont très différents des autres. Ils se moquent bien qu'un bulletin soit bon ou mauvais. Ce qui compte pour eux, c'est que je sois en bonne santé, pas trop insolente, et que je m'amuse. Si ces trois conditions sont remplies, le reste suivra. Moi, c'est le contraire, je n'aime pas les mauvaises notes. On m'a accepté au lycée sous condition parce qu'en principe, j'aurais dû faire une 7e année à la 6e école Montessori. Mais quand il a fallu que tous les enfants juifs aillent dans des écoles juives, Monsieur Elte nous a pris à l'essai, Lise Goslar et moi, après quelques tergiversations. Lise aussi est passée dans la classe supérieure, mais avec examen de rattrapage très dur en géométrie. Pauvre Lise. Chez elle, elle a bien du mal à travailler sérieusement. Elle a sa petite sœur qui joue dans sa chambre toute la journée, un bébé trop gâté de bientôt 2 ans. Si Gabi n'obtient pas ce qu'elle veut, elle se met à crier. Et si Lise ne s'occupe pas d'elle, c'est Madame Gosselaar qui crie. Dans ces conditions, il est impossible que Lise travaille bien. Et les innombrables leçons particulières qu'on lui donne sans arrêt ne peuvent pas y changer grand-chose. Chez les Gosselaar, tu parles d'une organisation. Les parents de Madame habitent la porte à côté, mais prennent tout leur repas avec eux. En plus, il y a une bonne, le bébé, Monsieur, toujours distrait et absent, et Madame, toujours nerveuse et irritée, qui en attend encore un. Dans cette pétaudière, cette pauvre empotée de Lise est toute perdue. Ma sœur Margot a eu aussi son bulletin, brillant comme d'habitude. Si cela existait chez nous, elle serait sûrement passée dans la classe supérieure avec les félicitations du jury. C'est un vrai crack. Papa est très souvent à la maison ces derniers temps. Il n'a plus de raison d'aller au bureau. Ça doit être triste de se sentir inutile. Monsieur Kleiman a pris la direction d'Opetka et Monsieur Kugler celle de Gis&Co, la société d'épices artificielles qui n'a été fondée qu'en 1941. Il y a quelques jours, comme nous faisions notre promenade autour de la place, papa a commencé à parler d'entrer dans la clandestinité. Il disait qu'il nous serait très difficile de vivre complètement coupé du monde. Je lui ai demandé pourquoi il parlait de nous cacher. Anne, répondit-il, tu sais que depuis plus d'un an, nous entreposons chez d'autres gens des vêtements, des vivres et des meubles. Nous voulons encore moins nous faire prendre. Aussi, nous allons partir de nous-mêmes au lieu d'attendre qu'on vienne nous chercher. Mais quand alors, papa ? Le ton grave de papa m'inquiétait. Ne te tracasse pas, nous nous occuperons de tout. Profite bien de ta vie insouciante pendant qu'il en est encore temps. Ce fut tout. Oh, puisse la réalisation de ces sombres paroles être aussi tardive que possible. On sonne. C'est Hello, je m'arrête. Bien à toi, Anne. Mercredi 8 juillet 1942. Chère Kitty, depuis dimanche matin, on dirait que des années se sont écoulées. Il s'est passé tant de choses qu'il me semble que le monde entier s'est mis tout à coup sans dessus dessous. Mais tu vois, Kitty, je vis encore et c'est le principal, dit papa. Oui, c'est vrai, je vis encore. Mais ne me demande pas où ni comment. J'ai l'impression que tu ne comprends rien à ce que je te dis aujourd'hui. C'est pourquoi je vais commencer par te raconter ce qui s'est passé dimanche après-midi. À 3 heures, Hello s'était absenté pour revenir un peu plus tard. Quelqu'un a sonné à la porte. Je n'ai rien entendu parce que j'étais paresseusement étendue sur une chaise longue à lire au soleil sur la terrasse. Margot est apparue tout excitée à la porte de la cuisine. « Il est arrivé une convocation des SS pour papa », a-t-elle chuchoté. « Maman est déjà partie chez Monsieur Van Daan. » Van Daan est un ami et un associé de papa. Ça m'a fait un choc terrible. Une convocation, tout le monde sait ce que cela veut dire. Je voyais déjà le spectre des camps de concentration et des cellules d'isolement. Et c'est là que nous aurions dû laisser partir papa. « Il n'est pas question qu'il parte », affirma Margot pendant que nous attendions maman dans le salon. Maman est allée chez Van Daan demander si nous pouvons nous installer demain dans notre cachette. Les Van Daan vont se cacher avec nous. Nous serons 7. Silence. Nous ne pouvions plus dire un mot. La pensée de papa, qui sans se douter de rien, faisait une visite à l'hospice juif, l'attente du retour de maman, la chaleur, la tension, tout cela nous imposait le silence. Soudain, la sonnette retentit de nouveau. « C'est Hello, » dis-je. « N'ouvre pas, » dit Margot, en me retenant. Mais ce n'était pas la peine. Nous entendions maman et Monsieur Van Daan parler en bas avec Hello, puis ils sont entrés et ont refermé la porte derrière eux. À chaque coup de sonnette, Margot et moi devions descendre sur la pointe des pieds voir si c'était papa. On n'ouvrait à personne d'autre. On nous fit sortir du salon, Margot et moi. Van Daan voulait parler seul à maman. Quand Margot et moi nous sommes retrouvés dans notre chambre, elle m'a raconté que la convocation n'était pas pour papa, mais pour elle. Ça m'a fait encore un choc et j'ai commencé à pleurer. Margot a 16 ans. Ils font donc partir seules des filles aussi jeunes. Mais heureusement, elle n'irait pas. Maman était formelle. Et c'est sans doute à cela que papa avait fait allusion quand il m'avait parlé de nous cacher. Nous cacher ? Mais où ? En ville ? À la campagne ? Dans une maison ? Une cabane ? Où, quand, comment? Cela faisait beaucoup de questions que je ne pouvais pas poser, mais qui revenaient sans cesse. Margot et moi avons commencé à ranger dans un cartable ce dont nous avions le plus besoin. La première chose que j'y ai mise, c'était ce cahier cartonné, puis des bigoudis, des mouchoirs, des livres de classe, un peigne, des vieilles lettres. La perspective de la cachette m'obsédait et je fourrais n'importe quoi dans la sacoche, mais je ne le regrette pas. Je tiens plus aux souvenirs qu'aux robes. À 5 heures, papa est enfin rentré. Nous avons téléphoné à M. Kleiman pour lui demander de venir le soir même. Van Dan est partie chercher Mip. Mip est arrivée, a emporté chez elle dans un sac des chaussures, des robes, des vestes, des sous-vêtements et des chaussettes et a promis de revenir dans la soirée. Après quoi, notre maison est redevenue silencieuse. Nous n'avions faim ni les uns ni les autres. Il faisait encore chaud et tout était très étrange. Nous avions loué notre grande chambre du haut à un certain M. Goldschmidt, un divorcé d'une 30aine d'années, qui apparemment n'avait rien à faire ce soir-là et s'est incrusté chez nous jusqu'à 10 heures. Pas moyen de se débarrasser de lui, quoi qu'on dise. Mip et Jan Gis sont arrivés à 11 heures. Mip travaille avec papa depuis 1933 et est devenue une grande amie, tout comme Jan, son mari de fraîche date. Une fois encore, des chaussures, des bas, des livres, des sous-vêtements ont disparu dans le sac de Mip et les grandes poches de Jan. À 11h30, ils disparaissaient à leur tour. J'étais morte de fatigue et j'avais beau savoir que ce serait ma dernière nuit dans mon lit, je me suis endormie tout de suite et maman a dû me réveiller à 5h30. Heureusement, il faisait un peu moins étouffant que dimanche. Des trompes de pluie chaudes sont tombées toute la journée. Tous les quatre, nous nous sommes couverts d'habits, comme pour passer la nuit dans une glacière, et cela dans le seul but d'emporter d'autres vêtements. Aucun juif dans notre situation ne se serait risqué à quitter sa maison avec une valise pleine d'habits. J'avais mis 2 chemises, 3 culottes, 1 robe, et par-dessus une jupe, une veste, un manteau d'été, 2 paires de bas, des chaussures d'hiver, un bonnet, une écharpe et bien d'autres choses encore. J'étouffais déjà avant de sortir, mais personne ne s'en souciait. Margot a bourré son cartable de livres de classe, est allée chercher son vélo dans la remise et a suivi Mip qui l'emmenait vers des horizons inconnus de moi. En effet, j'ignorais encore quelle serait notre mystérieuse destination. À 7h30, nous avons refermé à notre tour la porte derrière nous. Le seul à qui il me restait à dire adieu, c'était Mortier, mon petit chat, qui allait trouver un beau refuge chez les voisins, ainsi que l'indiquait une petite lettre adressée à M. Goldschmidt. Les lits défaits, les restes du petit déjeuner sur la table, une livre de viande pour le chat à la cuisine, tout donnait l'impression que nous étions partis précipitamment. Mais nous nous manquions bien des impressions. Tout ce que nous voulions, c'était partir. Partir et arriver à bon port et rien d'autre. La suite à demain. Bien à toi, Anne. Jeudi 9 juillet 1942. Cher Kitty, nous marchions sous la pluie battante, papa, maman et moi, chacun portant un cartable et un sac à provisions bourré jusqu'à ras-bord d'objets les plus hétéroclites. Les ouvriers qui allaient au travail à 7 heures matinale nous lançaient des regards de pitié. Sur leurs visages se lisait clairement leur regret de ne pouvoir nous proposer aucune sorte de véhicule. Le jaune éclatant de l'étoile en disait assez long. C'est seulement dans la rue que papa et maman m'ont dévoilé par bribes leur plan pour nous cacher. Depuis des mois, nous avions fait sortir de la maison autant de mobilier et de vêtements que possible et nous nous apprêtions à partir nous cacher de nous-mêmes le 16 juillet. La convocation avait avancé de 10 jours notre départ, si bien qu'il nous fallait nous contenter d'appartements moins bien arrangés. La cachette se trouvait dans les bureaux de papa. C'est un peu difficile à comprendre quand on ne connaît pas la situation. C'est pourquoi je vais donner quelques explications supplémentaires. Papa n'a pas eu beaucoup de personnel. Monsieur Kugler, Kleiman et Mip, et en plus Beb Voskel, la sténodactylo qui a 23 ans. Tous étaient au courant de notre arrivée. À l'entrepôt, le chef magasinier, Monsieur Voskel, le père de Beb, à qui nous n'avions rien dit, et 2 manutentionnaires. Le bâtiment est distribué ainsi. Au rez-de-chaussée se trouve un grand entrepôt qui sert au stockage. Il est partagé en différents compartiments, comme la pièce à moudre, où l'on moule la cannelle, les clous de girofle et l'ersatz de poivre, et la réserve. À côté de la porte de l'entrepôt se trouve la porte d'entrée du bâtiment, qui par l'intermédiaire d'une porte intérieure donne accès à un escalier. En haut de l'escalier, on arrive devant une porte en verre dépoli sur lequel on lisait autrefois « bureau » en lettres noires. C'est le grand bureau de devant. Très grand, très clair, très plein. Dans la journée, Bep, Mip et M. Kleiman y travaillent en traversant un petit cabinet avec un coffre-fort, une penderie et un grand placard de stockage. On parvient au bureau de la direction, petit, renfermé et sombre. Autrefois se tenaient là M. Van Dan et M. Kugler, aujourd'hui le seul occupant. On peut aussi atteindre le bureau de Kugler en venant du couloir, mais seulement par une porte vitrée qui s'ouvre de l'intérieur, mais non de l'extérieur, et à partir du bureau de Kugler, en suivant les trois couloirs, en passant devant la remise à charbon et en montant quatre marches, le joyau de tout le bâtiment, le bureau privé. Meubles imposants en bois sombre, linoléum et tapis par terre, radio, lampe élégante, la classe quoi. À côté, une grande et vaste cuisine avec chauffe-eau et une gazinière à deux feux, et à côté, des toilettes. Voilà pour le premier étage. Du couloir d'en bas, un simple escalier de bois monte à l'étage supérieur. En haut, il y a un petit passage baptisé palier. À droite et à gauche du palier, une porte, celle de gauche, mène au bâtiment sur rue, avec la réserve d'épices, la pièce intermédiaire, la pièce devant, le grenier de devant et les combles. De l'autre côté de ce bâtiment sur rue, un escalier long, hyper raide, un vrai casse-pâte hollandais, descend la deuxième porte d'entrée. À droite du palier se trouve l'annexe. Nul ne soupçonnerait que tant de pièces se cachent derrière cette simple porte peinte en gris. Une marche devant la porte et on y est. Juste en face de l'entrée, un escalier raide, à gauche un petit couloir et une pièce, pièce destinée à devenir la salle de séjour et la chambre à coucher de la famille Franck. À côté, une pièce plus petite, chambre à coucher et salle d'études des deux demoiselles Franck. À droite de l'escalier, une pièce sans fenêtre avec lavabo et toilettes séparées, et aussi une porte tenant sur notre chambre à Margot et à moi. Quand en haut de l'escalier on ouvre la porte, on est surpris de trouver dans cette vieille bâtisse une pièce aussi grande, claire et spacieuse. Dans cette pièce se trouve une cuisinière. Sa présence est due au fait que c'était autrefois le laboratoire de Kugler et un évier. La cuisine donc, et en même temps la chambre à coucher des époux Van Dan, le salon, la salle à manger et la salle d'études communautaires. Une toute petite pièce de passage sera l'appartement de Peter Van Dan. Et puis, comme en façade, un grenier et des combles. Voilà, je t'ai présenté toute notre belle annexe. Bien à toi, Anne. Vendredi 10 juillet 1942. Chère Kitty, il est très probable que ma description à rallonge de notre habitation t'a fortement ennuyée, mais je trouve qu'il faut quand même que tu saches où j'ai atterri. Comment j'ai atterri, tu l'apprendras de toutes mes prochaines lettres. D'abord la suite de mon histoire, car elle n'est pas terminée comme tu le sais. À notre arrivée, au 263 Prinsengracht, Nip s'est dépêché de nous faire prendre de longs couloirs, monter l'escalier de bois et de nous amener directement en haut, à l'annexe. Elle a refermé la porte derrière nous et nous nous sommes retrouvés tout seuls. Margot était arrivée bien avant nous, avec son vélo, elle nous attendait. Notre salle de séjour et les autres pièces étaient pleines d'un fouillis indescriptible. Tous les cartons qu'on avait envoyés au bureau au cours des mois précédents étaient empilés par terre et sur les lits. La petite chambre était bourrée de literies jusqu'au plafond. Si nous voulions dormir le soir dans des lits à peu près bien faits, il fallait s'y mettre tout de suite et ranger tout le fourneau. Maman et Margot étaient incapables du moindre effort. Elles s'étaient allongées sur les lits à même leur sommier, étaient fatiguées, exténuées et je ne sais quoi encore. Mais papa et moi, les deux rangeurs de la famille, voulions commencer sans plus attendre. Nous avons passé toute la journée à déballer des cartons, à remplir des placards, à planter des clous et à ranger jusqu'au soir où nous nous sommes écroulés dans des lits bien propres. Nous n'avions rien mangé de chaud de toute la journée, mais cela ne nous avait pas arrêtés. Maman et Margot étaient trop fatiguées et trop tendues pour manger. Papa et moi avions trop de travail. Mardi matin, nous avons repris là où nous nous étions arrêtés lundi. Bep et Nip sont allés faire les courses en se servant de nos tickets de rationnement. Papa a amélioré le camouflage des fenêtres qui était insuffisant. Nous avons frotté le sol de la cuisine et une fois de plus, nous nous sommes activés du matin au soir. Jusqu'à mercredi, je n'ai pour ainsi dire pas eu un seul instant pour réfléchir aux grands changements qui s'étaient produits dans ma vie. C'est alors seulement pour la première fois depuis notre installation que l'occasion s'est présentée de te rapporter les événements et en même temps de prendre pleinement conscience de ce qui m'était arrivé et de ce qui allait m'arriver encore. Bien à toi, Anne. Samedi 11 juillet 1942. Chère Kitty, papa, maman et Margot ont encore du mal à s'habituer au carillon de la Westertoren, qui sonne tous les quarts d'heure. Moi pas, je l'ai tout de suite aimé, et surtout la nuit, c'est un bruit rassurant. Il t'intéressera peut-être de savoir quelle impression cela me fait de me cacher. Eh bien, tout ce que je peux te dire, c'est que je n'en sais encore trop rien. Je crois que je me sentirai jamais chez moi dans cette maison. Ce qui ne signifie absolument pas que je m'y sens mal, mais plutôt comme dans une pension de famille assez singulière où je serais en vacances. Une conception bizarre de la clandestinité sans doute, mais c'est la mienne. L'annexe est une cachette idéale. Et bien qu'humide et biscornue, Il n'y en a probablement pas de mieux aménagé ni de plus confortable dans tout Amsterdam, voire dans toute la Hollande. Avec ses murs vides, notre petite chambre faisait très nue. Grâce à papa, qui avait emporté à l'avance toute ma collection de cartes postales et de photos de stars de cinéma, j'ai pu enduire tout le mur avec un pinceau et de la colle et faire de la chambre une gigantesque image. C'est beaucoup plus gai comme ça. Et quand les Van Dan nous rejoindront, nous pourrons fabriquer des étagères et d'autres petites bricoles avec le bois entreposé au grenier. Margot et maman se sentent un peu retapées. Hier, maman a voulu se remettre au fourneau pour faire de la soupe aux pois. Mais pendant qu'elle bavardait en bas, elle a oublié la soupe qui a brûlé si fort que les pois carbonisés collaient au fond de la casserole. Hier soir, nous sommes descendus tous les quatre dans le bureau privé et avons mis la radio de Londres. J'étais tellement terrorisée à l'idée qu'on puisse nous entendre que j'ai littéralement supplié papa de remonter avec moi. Maman a compris mon inquiétude et m'a raccompagnée. Pour d'autres choses aussi, nous avons très peur d'être vus ou entendus par les voisins. Dès le premier jour, nous avons cousu les rideaux. En fait, on peut difficilement parler de rideaux, car ce ne sont que de vilains bouts de tissu terne, de forme, de qualité, de motifs totalement disparates que nous avons cousus ensemble, papa et moi, tout de travers, comme de vrais amateurs. Ces œuvres d'art sont fixées devant les fenêtres par des punaises et n'en seront plus décrochées jusqu'à la fin de notre clandestinité. L'immeuble de droite est occupé par une filiale de la maison Keck de Zaandam. Celui de gauche par un atelier de menuiserie. Donc les employés ne sont plus là après les heures de travail, mais les bruits pourraient quand même traverser. Aussi avons-nous interdit à Margot de tousser la nuit, bien qu'elle ait attrapé un mauvais rhume, et nous lui faisons avaler de la codéine en grande quantité. Je me réjouis beaucoup de l'arrivée des Van Dan, prévue pour mardi. On aura un peu plus de chaleur humaine, et aussi moins de silence. C'est le silence qui me rend si nerveuse le soir, et la nuit, et je donnerai cher pour qu'un de nos protecteurs reste dormir ici. Nous ne sommes pas trop mal ici, car nous pouvons faire la cuisine et écouter la radio en bas, dans le bureau de papa. Monsieur Kleiman et Mip, et aussi Beb Voskul, nous ont tellement aidés. Ils nous ont déjà apporté de la rhubarbe, des fraises et des cerises. Et je ne crois pas que nous allons nous ennuyer de sitôt. Nous avons aussi de quoi lire, et nous allons acheter encore un tas de jeux de société. Évidemment, nous n'avons pas le droit de regarder par la fenêtre ou de sortir. Dans la journée, nous sommes constamment obligés de marcher sur la pointe des pieds et de parler tout bas parce qu'il ne faut pas qu'on nous entende de l'entrepôt. Hier, nous avons eu beaucoup de travail. Nous avons dû dénoyauter 2 paniers de cerises pour la firme. Monsieur Kugler voulait en faire des conserves. Nous allons transformer les cajots de cerises en étagères à livres. On m'appelle, bien à toi, Anne. 28 septembre 1942. À jour. L'idée de ne jamais pouvoir sortir m'oppresse aussi, plus que je ne suis capable de le dire. Et j'ai très peur qu'on nous découvre et qu'on nous fusille. Évidemment, une perspective assez peu réjouissante. Dimanche 12 juillet 1942. Il y a un mois exactement, ils étaient tous très gentils avec moi, parce que c'était mon anniversaire. Mais maintenant, je sens chaque jour que je m'éloigne un peu plus de maman et de Margot. Aujourd'hui, j'ai travaillé dur et tout le monde m'a encensé. Et 5 minutes plus tard, les voilà qui recommencent à me houspiller. Ils n'ont pas du tout la même façon de s'adresser à Margot ou à moi. On voit bien la différence. Par exemple, Margot a cassé l'aspirateur et nous n'avons pas eu de courant de toute la journée. Maman lui a dit « Mais Margot, on voit bien que tu n'as pas l'habitude de travailler. Sinon, tu aurais su qu'on n'éteint pas un aspirateur en tirant sur le fil. » Margot a répondu quelque chose et l'affaire a été enterrée. Mais cet après-midi, je voulais recopier une partie de la liste de courses de maman parce qu'elle a une écriture très difficile à lire, mais elle m'en a empêchée, elle m'a passé un bon savon et toute la famille s'en est mêlée. Je ne suis pas comme eux et j'en prends clairement conscience, surtout ces derniers temps. Ils sont tellement sentimentaux entre eux et moi je préfère l'être toute seule. Et puis ils n'arrêtent pas de dire comme on est bien tous les quatre et comme on sait vivre en harmonie, mais ils ne songent pas un instant que je peux être d'un avis contraire. Papa est le seul à me comprendre de temps en temps, mais généralement il prend le parti de maman et de Margot. Et puis, je ne supporte pas non plus que devant d'autres gens, ils racontent que j'ai pleuré ou disent que je suis très raisonnable, ça m'agace au plus haut point. Et quand il leur arrive de parler de Mortier, ça me met hors de moi, car c'est mon point faible et mon point sensible. Mortier me manque à chaque instant de la journée et personne ne sait à quel point je pense à lui. Chaque fois j'en ai les larmes aux yeux. Mortier si mignon, et je l'aime tellement. Je rêve à des projets pour le faire revenir. Je m'invente toujours de beaux rêves, mais la réalité, c'est que nous devons rester ici jusqu'à la fin de la guerre. Nous n'avons jamais le droit de sortir et ne pouvons recevoir de visites que de Mip, de son mari Jan, de Beb Voskul, de Monsieur Voskul, de Monsieur Kugler, de Monsieur Kleiman et de Madame Kleiman, mais elle ne vient pas car elle trouve cela trop dangereux. Septembre 1942, ajoute. Papa est toujours si gentil. Il me comprend si parfaitement. Et j'aimerais bien pouvoir me confier à lui sans éclater aussitôt en sanglots. Mais il paraît que c'est une question d'âge. J'aimerais bien ne jamais m'arrêter d'écrire, mais cela deviendrait beaucoup trop ennuyeux. Jusqu'à présent, je n'ai pratiquement fait que noter mes pensées dans mon journal. Et je n'ai pas encore réussi à écrire des histoires intéressantes que je pourrais lire plus tard devant tout le monde. Mais dorénavant, je vais essayer de ne pas être sentimentale, ou de l'être moins, et d'être plus fidèle à la réalité. Vendredi 14 août 1942. Chère Kitty, je t'ai laissé tomber pendant un mois, mais il faut dire que je n'ai pas assez de nouvelles pour te raconter chaque jour de belles histoires. Les Van Damme sont arrivés le 13 juillet. Nous pensions qu'ils viendraient le 14, mais comme les Allemands ont commencé à affoler de plus en plus de gens entre le 13 et le 16 juillet en envoyant des convocations de tous les côtés, ils ont jugé qu'il valait mieux partir un jour plus tôt qu'un jour plus tard. À 9h30, nous en étions encore au petit déjeuner, est arrivé Peter, le fils des Van Damme, un garçon de bientôt 16 ans, un dadais timide et plutôt ennuyeux, dont la compagnie ne promet pas grand-chose. Madame et monsieur ont fait leur entrée une demi-heure plus tard, à notre grande hilarité. Madame transportait dans son carton à chapeau un grand pot de chambre. « Sans pot de chambre, je ne me sens pas chez moi », déclara-t-elle. Et le pot fut d'ailleurs le premier à trouver une place attitrée sous le divan. Monsieur, lui, n'avait pas son pot, mais portait sous le bras sa table à thé pliante. Le premier jour où nous avons été réunis, nous avons mangé ensemble dans la bonne humeur, et au bout de 3 jours, nous avions tous les 7 l'impression d'être devenus une grande famille. Les Van Damme, on s'en doute, avaient beaucoup à nous raconter sur leur semaine supplémentaire de séjour dans le monde habité. Nous étions très intéressés, en particulier par ce qu'il était advenu de notre maison et de M. Goldschmidt. M. Van Damme raconte. Lundi matin, à 9h, M. Goldschmidt nous a téléphoné pour me demander de passer le voir. Je suis venu immédiatement et j'ai trouvé Goldschmidt dans tous ses états. Il m'a montré une lettre que la famille Frank avait laissée et qui lui demandait d'apporter le chat chez les voisins, ce qu'il voulait faire et que j'approuvais. Il craignait une perquisition. C'est pourquoi nous avons inspecté toutes les pièces pour faire un peu de rangement et débarrasser la table. Soudain, j'ai vu sur le bureau de madame un bloc-notes portant une adresse à Maastricht. Je savais que madame avait fait exprès de le laisser en évidence. Mais j'ai pris un air étonné et effrayé. Et j'ai pressé M. Goldschmidt de brûler le papier compromettant. Jusque-là, j'avais prétendu tout ignorer de votre disparition, mais quand j'ai vu le papier, j'ai eu une bonne idée. J'ai dit « Monsieur Goldschmidt, je crois comprendre tout d'un coup à quoi se rapporte cette adresse. Je me rappelle très bien qu'il y a 6 mois environ, un officier de haut rang est passé au bureau. Il avait bien connu M. Frank dans sa jeunesse. Il lui a promis de l'aider en cas de besoin. Et cet officier était en effet cantonné à Maastricht. Il a dû tenir parole et faire passer M. Frank par je ne sais quel moyen en Belgique et de là en Suisse. Vous n'avez qu'à le dire aux amis des Frank, s'ils viennent demander de leurs nouvelles. Mais bien entendu, ce n'est pas la peine de parler de Maastricht. » Sur ce, je suis partie. La plupart des amis sont au courant, car l'histoire m'est déjà revenue aux oreilles de différents côtés. Nous avons trouvé l'anecdote très amusante, mais avons ri bien plus encore de l'imagination des gens en entendant le récit de M. Van Damme à propos d'autres amis. Ainsi, une famille de la mère Wedeplein nous avait vu passer tous 4 à bicyclette le matin de bonne heure, et une autre dame assurait qu'on nous avait fait monter dans un camion militaire.